Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aus Floß. Ich will dich bloß.
Und Femme. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8. Désolée pour ce petit retard, mais ça y est, tout le monde est là et nous passons cette fin d'après-midi en votre compagnie. Radio Zone Onde Femme, c'est tous les mercredis, c'est la parole donnée aux femmes pour parler des questions qui les préoccupent et pour parler tout simplement des questions de femmes. Aujourd'hui dans Remue Ménage, eh bien, l'apport de quelques femmes sur ce débat qui soulève à la fois toutes les polémiques mais en même temps beaucoup de tensions et d'émotions même au sein des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire autour du port du voile et en particulier chez nous, le port du voile par des femmes qui sont musulmanes par conversion et qui chez nous, par exemple dans le cadre de leur activité professionnelle, portent le voile et se sont vus, entre autres, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'instruction publique à Genève, vu interdite de porter ce signe distinctif religieux dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors un débat lancé parmi les femmes et un certain nombre d'apports par d'autres femmes pour contribuer au débat, c'est ce que je vous propose de découvrir cet après-midi. Et puis quelques éléments pour savoir comment se poursuit aujourd'hui la lutte au sein du comité Viva Zapata à Genève. Le comité Viva Zapata, dont beaucoup d'entre eux se sont rendus cet été à la deuxième rencontre intergalactique pour l'humanité et contre le néolibéralisme en Espagne. Voilà, alors c'est aujourd'hui dans Remue Ménage. Remue Ménage, c'est 17h-18h30. À 18h30, c'est les informels de Radio Pleine Lune. Et 19h-20h, c'est les coups de cœur de Marjolaine. Tout de suite, eh bien, nous commençons en musique. Tina Turner.
He's always right. I'm always wrong. Because he's weak. I must be strong. Just the way it is when you're a woman in a man's world. If I say it's white, he says it's black. When he runs away, I take him back. That's the way it is. Just the way it is to love a man in a man's world. But if I use my head instead of my heart, I'd find someone else to care for. Man's world.
a man's world.
Tina Turner nous racontait comment c'est lorsque on aime un homme dans un monde d'hommes. Et chaque fois que je dis blanc, il dit noir. Chaque fois que je dis une chose, il dit le contraire. Voilà ce que c'est que d'aimer un homme dans un monde d'hommes. Et lorsque je regarde les choses plus avec ma tête qu'avec mon cœur, je me dis que je ferais mieux d'arrêter de l'aimer. Mais c'est mon cœur qui parle. Voilà ce que c'est que d'aimer un homme dans un monde d'hommes. Tina Turner est toujours une histoire de femme. The woman I'm supposed to be. Toujours Tina Turner.
I'm in a hurry.
Tina Turner dans Remue Ménage, Onde Femme, Radiozone 93.8. Alors je vous le disais, il y a un débat, vous le savez bien, qui s'est enclenché autour du port du voile islamique. Tout d'abord, le débat a commencé parce que ce voile était porté par certaines jeunes filles dans le cadre des écoles, et c'était surtout ce qui est arrivé en France voisine. Et puis cette histoire a aussi touché à un moment donné la ville de Genève, en particulier dans le domaine de l'enseignement, puisque l'école genevoise a dû trancher sur le cas d'une femme qui enseignait avec un foulard. Et la présidente du département de l'instruction publique de Genève a empêché cette jeune femme d'enseigner avec le voile islamique. Alors le collectif du 14 juin a décidé de proposer un débat sur cette question qui a soulevé beaucoup de réactions différentes, même au sein des femmes elles-mêmes engagées dans la défense des droits des femmes. débat qui parfois vraiment a soulevé des réactions très affectives, parfois violentes. Alors il semblerait qu'il faille vraiment essayer de poser ce débat dans un grand calme. C'est ce que propose le collectif 14 juin aux femmes qui le souhaitent ce week-end. Un débat donc sur ce thème. Et elle nous propose un certain nombre de textes qui participent au débat avec les éléments qu'ils peuvent amener. Alors peut-être il faut tout d'abord rappeler les choses telles, les premiers textes qui sont apparus sur cette question-là. Évidemment, c'était d'abord la prise de position du département de l'instruction publique à Genève par la voix de sa présidente, Madame Brunschvicg-Grave. Alors je vous lis ce premier texte pour commencer, donc communication de la direction de l'enseignement primaire à propos du foulard islamique. C'était en décembre 1996. Point 1. La laïcité de l'école publique genevoise est une conquête sociale et politique essentielle de notre démocratie, voire l'article 6 de la loi sur l'instruction publique. Elle garantit le respect des convictions confessionnelles des élèves et de leurs familles. Cet espace de neutralité confessionnelle de l'école permet à tous les élèves de cultures et de religions différentes, ou sans religion, de se sentir chez elles, chez eux. Nous devons être attentifs à préserver cet espace, respectueux de la sensibilité de chacun. L'école ne doit pas redevenir un lieu de conflit religieux. Point 2. L'institutrice ou l'instituteur représente souvent un ou une modèle pour l'enfant, tant par ce qu'il dit que par ce qu'il est. L'éducation ne se réduit pas au seul message verbal. Les attitudes, les comportements n'échappent pas à l'enfant. Dans cet esprit, quel message transmet l'école publique genevoise à ses élèves en admettant qu'une adulte se voile dès qu'elle se trouve en présence d'adolescents pubères ou d'hommes ? Elle cautionne un modèle discriminatoire au sein de l'école en désignant les garçons comme futurs agresseurs. Elle enferme les femmes dans le rôle de victimes potentielles, devant adopter une attitude défensive et passive, dissimuler entièrement son corps sauf les mains et le visage, pour se protéger du regard des hommes. L'école publique genevoise ne reconnaît pas cet apartheid entre filles et garçons, mais défend au contraire le principe d'égalité des droits et le développement équilibré de la personnalité de l'enfant dans le cadre d'une dynamique d'évolution positive des rapports humains, combattre les préjugés liés à l'origine, au racisme et au fait d'être fille ou garçon. Pour mieux atteindre les objectifs fixés par la loi sur l'instruction publique, l'école intensifie aujourd'hui ses efforts pour favoriser l'apprentissage du respect mutuel et la concrétisation du principe de l'égalité des chances entre tous dès les plus jeunes âges. Ceci selon l'article 4 de la Constitution fédérale et l'article 4 de la loi sur l'instruction publique. Point 3. Les enseignants sont les collaborateurs d'un État laïque. Leur statut diffère de celui des élèves. Un ou une élève n'a pas le même statut ni les mêmes responsabilités qu'un ou qu'une enseignant. Pour l'ensemble de ces raisons, la direction de l'école primaire s'oppose au voile islamique porté dans l'exercice de la profession d'enseignant dans le cadre d'une école publique genevoise. Signature, la direction de l'école primaire. Martine Brunschvicg-Grave, la présidente du département de l'instruction publique à Genève, a pensé qu'il était nécessaire de préciser un certain nombre de points qu'elle avait donné dans la communication de la direction de l'enseignement primaire à propos du port du voile islamique à l'école, dans l'école publique genevoise. Je vous donne des citations de cette lettre qu'a écrite Martine Brunschwig-Graf. Le port du voile islamique par certaines jeunes filles dans les écoles a soulevé un certain nombre de questions auxquelles il mérite d'être répondu de façon claire. Ainsi, afin que chaque personne confrontée à cette situation puisse la gérer en toute connaissance de cause, vous trouverez ci-après la position du département sur cette question. Mais elle précise pour autant, l'école genevoise accueille et ne pratique pas l'exclusion à l'égard des jeunes filles portant un voulard islamique. En effet, elle considère qu'une école laïque qui est censée garantir le respect des convictions politiques et confessionnelles des élèves et des parents, selon toujours l'article 6 de la loi sur l'instruction publique, peut parfaitement admettre que des élèves portent de manière plus ou moins visible des signes à connotation religieuse. Dans ce sens, le port du foulard ou d'une kippa ou d'une croix religieuse entre parfaitement dans ces principes de tolérance indispensable, pour autant qu'il soit exempt de tout prosélytisme. Le débat sur le port du voile islamique porte moins sur sa connotation religieuse que sur le symbole de discrimination qu'il représente. Dès lors, le département de l'instruction publique genevois estime contribuer davantage à lutter contre cette forme d'exclusion en accueillant ces jeunes filles en son sein et en leur offrant une formation solide à même de leur permettre de développer, au-delà des connaissances, leur autonomie. Cela étant dit, cette ouverture s'accompagne d'une exigence, à savoir que les élèves concernés doivent suivre l'ensemble des cours prévus au programme s'il n'y a pas lieu d'accorder des dispenses pour les cours d'éducation physique, pour autant que ces cours soient dispensés par une enseignante dans un cours composé exclusivement de jeunes filles. La seule exception concerne les cours de natation. À l'occasion de cette polémique, le collectif 14 juin de Genève a pensé qu'il était important de donner sa prise de position. Alors je vous lis ce texte qui donc avait été signé par des femmes du collectif du 14 juin ainsi que par le groupe Femmes du monde arabe à Genève. La prise de position avait pour titre « Voile islamique, ne pas tolérer l'intolérable ». Et ce texte est signé du 31 octobre 1996. L'enseignante genevoise qui porte le voile islamique dans l'exercice de sa profession pose un problème qui va bien au-delà des particularismes religieux et culturels. En effet, chaque jour à travers le monde, des milliers de femmes bravent la mort en refusant de porter le voile islamique. Combattues dans leur pays depuis un siècle par des femmes courageuses et éprises de liberté, le voile islamique est aujourd'hui un enjeu de vie et de mort pour des femmes et des jeunes filles. Tout le monde a encore en mémoire les deux écolières algériennes assassinées car elles ne portaient pas le voile. La semaine dernière encore, en Afghanistan, une femme tombait sous les balles d'un intégriste car elle avait osé défier la terreur du voile. Des drames, des exemples parmi tant d'autres. Le voile islamique est devenu un instrument de l'asservissement des femmes qui peut conduire à la mort. Il est aussi intolérable que les mutilations sexuelles des petites filles, les viols, le meurtre des bébés de sexe féminin en Chine ou en Inde. De tout temps, dans toutes les confessions, les intégrismes religieux ont tenté de dicter aux femmes leur conduite par le chantage et par la répression. Ils imposent une conception archaïque et méprisante de la femme, définie comme dangereuse, corruptrice et impure. Elle n'a le droit d'exister que si elle se soumet à des contraintes décidées par des hommes et qui sont autant d'entraves à sa dignité et à sa liberté de femme. Ainsi, le message véhiculé par le voile islamique est terrifiant. Il exige des jeunes filles, dès leur première règle, qu'elles se dissimulent presque entièrement, qu'elles recouvrent tout leur corps, sauf les mains et le visage, face au regard des hommes. De fait, l'intégrisme religieux n'est pas seul à s'approprier le corps de la femme. Toutes les sociétés patriarcales en font un enjeu de pouvoir. Engagé depuis des années pour la défense des droits des femmes, le collectif du 14 juin de Genève soutient le combat des femmes pour leurs droits fondamentaux sous les lois musulmanes. Et parce que nous luttons ici pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, nous ne pouvons accepter qu'une enseignante porte le voile islamique dans l'exercice de ses fonctions. Ce faisant, elle impose tous les jours l'exemple de la soumission des femmes à de jeunes élèves de l'école publique genevoise. Bien au contraire, plus que jamais, l'école doit aujourd'hui redoubler d'efforts pour promouvoir l'égalité des chances entre garçons et filles. Une autre réaction a été publiée peu de temps après le communiqué et la prise de position du collectif du 14 juin. C'était dans un courrier de lecteurs ou de lectrices dans le journal Le Courrier. C'était le week-end du 25-26 janvier 1997. Je vous lis cette lettre adressée au courrier du lecteur. Le titre de la lettre, Foulard islamique, on voit le voile, on oublie le sens de la lutte. Selon Madame Christine Mistelli, l'instrument d'asservissement n'est pas le foulard islamique, mais la violence qui permet de l'imposer ou l'interdire. L'intolérable pour moi, dit Christine Mistelli, c'est la contrainte, le droit que se permet de prendre sur moi qui que ce soit pour m'obliger à me vêtir d'une autre façon que celle que j'ai choisie. Je revendique pour toutes les femmes, où que ce soit, même à Genève ou pour chacune d'entre elles, le droit de s'habiller comme elle veut. Jusque dans les années 60, il était interdit aux collégiennes de porter des pantalons, même en hiver. Une amie m'a raconté que même aux arts déco, à cette époque, elle s'était fait systématiquement renvoyer parce qu'elle persistait, comportement subversif, à arriver en pantalon chaque matin, en hiver seulement, bien sûr. Anecdote. Histoire. Pendant la colonisation française en Algérie, le pouvoir français, voulant libérer les femmes arabes évidemment, avait interdit le port du voile au sens strict et non du foulard, et les femmes arabes subversivement, dangereusement et comme acte de résistance à la colonisation refusèrent de se dévoiler. Aujourd'hui, la violence contre les femmes, une fois de plus, veut les obliger à se plier à son diktat. Tu t'habilleras comme nous te l'enjoignons. Là-bas les voiler, ici interdire à l'une d'entre nous de travailler en portant le foulard. Le collectif 14 juin se retrouve donc tranquillement aux côtés du pouvoir, contre une femme. J'allais céder à la solution de facilité de justifier le choix de cette enseignante en arguant qu'elle est majeure, en pleine possession de ses facultés et qu'elle est dans son pays, donc libre de ses mouvements et capable de défendre ses droits, qu'il s'agit donc d'une décision qu'elle a prise en toute liberté, que son comportement ne met pas en danger la laïcité, que la démocratie peut supporter les particularismes sans les exclure, etc. Cependant, comme pour le harcèlement sexuel où la victime est seule habilitée à décider ce qu'elle considère pour elle inacceptable, ici, cette femme est la seule à pouvoir décider de la façon dont elle s'habille et nul n'a à plaider sa cause. Lorsque la rigueur de la réflexion manque, on applique le dogme. On ne voit que le voile, on oublie le sens de la lutte des femmes. Les femmes qui se battent contre le port du voile et du foulard dans les pays où on les oblige à les porter se battent pour leurs droits, leur liberté et leur dignité. Ici, pour nous, cela signifie nous battre pour que cette femme, quelles que soient ses raisons, puisse porter le foulard islamique. Ce n'est pas le foulard qui est un instrument d'asservissement, c'est la violence légale et illégale qui se permet de l'imposer ou de l'interdire. Et prétendre défendre l'égalité des droits entre l'homme et femme pour aboutir à la conclusion qu'il faut, ici, sous loi démocratique, lutter aux côtés du pouvoir en place pour contraindre une femme à quitter le foulard, cette position est désolante ou risible. Reste que se battre contre un objet ou non, contre ceux ou l'organisation sociale qui asservisse les femmes, ne renforce ces dernières, ni ici, ni là-bas. Un comble. L'espoir de justice de cette femme, aujourd'hui à Genève, réside dans le tribunal fédéral. Encore un détail, néanmoins révélateur. Parler de voile dans le cadre de cette affaire est simplement malhonnête, car il s'agit d'un foulard, objet bien différent quant à ses effets sur la personne qui le porte, en tout cas. Je rappelle que ce texte est signé d'une lectrice, Christine Mistelli, adressée au courrier des lecteurs du journal Le Courrier. Alors, suite à cet échange de propos et vu que le débat était devenu public, eh bien le collectif 14 juin a décidé d'organiser une journée de débat entre femmes intéressées par cette réflexion pour vraiment approfondir la question. Et donc une journée de réflexion sur le voile islamique en partant du texte que le collectif 14 juin avait donc publié, Voile islamique, ne pas tolérer l'intolérable. Alors, si le collectif 14 juin, là je vous cite les paroles du collectif 14 juin, avait réagi en décembre dernier, c'est parce que le débat était devenu public. Et comme le dit le collectif 14 juin, nous nous sentions concernés aussi bien par rapport à la laïcité de l'école que par rapport à l'égalité des droits et des chances entre garçons et filles. De plus, des actions de solidarité avec des femmes algériennes nous avaient rendus sensibles à la montée de l'intégrisme et au danger que ce courant islamiste représente pour les femmes. Et, dit toujours le collectif 14 juin, nous ne pouvions rester indifférentes. Mais très vite, les réactions suscitées par notre communiqué nous ont amenés à décider de prendre le temps de réfléchir à toute cette problématique, en évitant de tomber dans le piège d'un racisme primaire, anti-musulman ou anti-arabe. Il s'agit de débattre une position féministe qui nous permette une pratique de tolérance et de solidarité avec les femmes vivant sous loi musulmane ou pratiquant cette religion. Cette position devrait aussi éclaircir les motivations fondamentales de notre engagement contre l'oppression des femmes sous toutes ses formes. Alors beaucoup d'entre nous, disent les femmes du collectif 14 juin, et je crois que c'est la réalité, croisent aujourd'hui dans leur travail professionnel ou dans leur engagement militant des femmes et des jeunes filles portant le voile ou le foulard islamique. Quelle attitude avons-nous? Que disons-nous? Alors, pour nous aider dans notre réflexion, le collectif 14 juin a donc proposé cette journée de réflexion qui va avoir lieu le samedi 4 octobre. Elles ont invité des femmes concernées par cette problématique dans leur engagement, leur activité professionnelle, leur vie privée. Et elles nous proposent de participer à ce débat en suivant les propositions de ces femmes invitées qui nous feront part de leurs connaissances et de leurs pratiques. À toutes les participantes qui se sont inscrites au débat, à cette journée de travail, elles ont envoyé une série de contributions écrites pour servir de base de réflexion à cette journée de débat. Et c'est des extraits de ces textes que j'ai envie de vous faire partager aujourd'hui. Alors, encore une fois, le collectif 14 juin répète qu'il ne s'agit pas de jeter l'anathème à quiconque, mais vraiment, l'objectif de ce débat entre femmes doit être d'arriver à la fin de la journée à clarifier, à préciser les idées que nous avons sur la signification et les enjeux que représente pour les femmes à Genève, en 1997, le port du costume islamique. Alors, à la fois, des femmes vivant sous loi musulmane participeront à cette discussion. Par exemple, Souad Benani, qui parlera des expériences françaises. Nous aurons des informations sur le costume islamique et l'école publique genevoise, et puis aussi sur les religions et le corps des femmes, et puis tout ce que nous pourrons amener dans ce débat. Mais pour aujourd'hui, eh bien, je vous propose justement de piocher un petit peu dans diverses contributions écrites que des femmes ont déjà données à ce débat, parce que, bien sûr, il ne date pas d'aujourd'hui, évidemment. Et avant de lire ces extraits, eh bien, je vous propose d'écouter Jananani, le fiel du venin.